Salut tout le monde, Dan Gagnon pour le podcast Tout seul, édition du jeudi 9 avril. Vous allez peut-être entendre encore une fois que le mood est un peu différent. Là, j'enregistre de la maison, on est le soir. Je pensais enregistrer le podcast beaucoup plus tôt aujourd'hui, mais il y a eu une espèce de super belle effervescence. J'avais demandé des témoignages de gens qui ont décidé de faire un enfant tout seul. Et en général, c'est beaucoup plus toute seule, parce que j'ai eu que des témoignages de femmes. Et j'étais surpris de voir la quantité de points en commun entre toutes les anecdotes, alors que les histoires et les points de départ sont tellement éloignés. Des gens qui ont choisi de faire un enfant tout seul à l'âge de 40 ans, d'autres qui ont choisi à 18-19 ans, d'autres pour qui c'était un accident à différents âges, d'autres qui c'était pas prévu, mais finalement en cours de grossesse, c'est ça qui est arrivé. Et de voir tellement de points de départ différents pour arriver à une histoire qui est souvent semblable. Et encore une fois, règle générale, c'est des histoires hyper positives. Moins de préjugés que ce que j'aurais pu croire aussi. Il y en a qui ont fait ça à différentes époques, Et c'est sûr que, bon, j'ai beaucoup d'histoires qui viennent de Belgique, qui, par rapport à d'autres pays de la francophonie, disons comme ça, sont peut-être quelques années en avance sur l'ouverture d'esprit pour ce genre de situation. Et j'ai aussi des gens en live et je suis en train de retomber amoureux de cette façon de faire des médias parce qu'à la base, moi, j'ai une formation en journalisme. J'ai commencé en septembre 2001. Donc, j'étais dans le bain directement d'une espèce d'effervescence médiatique. Forcément, en septembre 2001, c'est là que j'ai commencé. Littéralement, ma deuxième semaine d'école, les attentats du 11 septembre. Donc, c'était assez particulier. Et le plaisir que c'est, ce qui m'avait fait tomber amoureux du métier de journaliste, c'était pour moi, tu passes ta vie à apprendre des nouvelles choses et être en contact avec plein de gens. Et j'avais oublié que c'était une passion, que c'était quelque chose que j'aimais. Et je suis en train de le retrouver avec le podcast parce que, ayant fait le choix de parler de choses qui m'intéressent, parfois c'est hyper spécifique. Et on pourrait croire que plus un sujet est spécifique, plus c'est difficile de trouver des gens pour témoigner, mais c'est exactement l'inverse. Parce que, encore une fois, tu as une personne dans ton entourage qui correspond à cette chose-là. Et donc, vous continuez de taguer vos amis et il y a plein de gens qui arrivent. Je vois l'auditoire de ce podcast qui augmente et je suis hyper touché par la qualité des informations que je reçois, des gens qui me contactent, la générosité avec le temps. Là, je demandais en gros à des mères qui sont toutes seules de prendre du temps pour me parler et j'ai reçu des longs, très 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 longs témoignages et je crois que ça va offrir une très belle fenêtre sur la réalité de ce que c'est et de voir à quel point le logique papa-maman-bébé est, sans dire que c'est rare parce que c'est absolument pas rare, mais ce n'est absolument pas la majorité des cas, la majorité des cas de figure. Et c'est super intéressant, mais j'ai besoin d'encore au moins une journée ou deux pour pouvoir compiler tout ça et en faire un podcast qui soit à la hauteur de la qualité des témoignages que j'ai reçus. Surtout que, encore une fois, à chaque fois que tu touches à un domaine, en fait, j'ai l'impression de rentrer dans un resto et de dire au chef, je connais pas la cuisine, est-ce que tu peux me dire ce que toi, tu as le plus envie de faire? Et il n'y a rien de plus beau que d'aller voir quelqu'un dans son domaine et lui dire « Voici toutes les ressources pour que tu puisses faire la chose que tu as le plus envie de faire, toi qui es passionné par ce domaine. » C'est vrai en cuisine. Mon épouse est allée voir une tatoueuse qu'elle adorait un jour et la tatoueuse lui a dit « Qu'est-ce que tu veux te faire tatouer? » Elle lui a dit « Ce que toi tu veux. Moi, je viens chercher ton talent et ton art. Fais le tatouage que tu as le plus envie de faire. Comme ça, j'ai la meilleure version de toi aujourd'hui. » Et en plus, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment avec le podcast. Je vous demande plus ou moins de quoi vous voulez parler et j'arrive avec une approche de néophyte, de quelqu'un qui est curieux et qui veut apprendre. Et vous êtes tellement généreux de votre temps, c'est fantastique. Je l'ai dit dans le dernier podcast, je le répète, tout le monde va dire « Ah, merci pour vos retours, ça me fait plaisir, blablabla. » Moi, ça m'a toujours cassé les couilles. Mais pour la première fois, j'arrive au bureau, j'arrive au travail et je vois la flopée de messages que je reçois et je suis content parce que j'ai passé une autre journée à apprendre et plus j'en sais, plus je suis en position, je crois, de pouvoir raconter les histoires comme je veux et toucher des gens. En fait, c'est ça que je veux le plus. Toucher des gens qui sentent maintenant, sans dire concernés, mais vraiment un peu touchés par des réalités qui sont loin des leurs. Donc, augmenter l'empathie, augmenter la bienveillance. Il me semble que c'est voilà, une mission qui me donne l'impression, moi, d'être utile. Parce que c'est ça aussi, je veux dire, je fais un super beau métier, mais vous pouvez demander à n'importe qui dans votre entourage qui touche vaguement à ce métier-là, ça arrive souvent que tu te dis, en fait, ça ne sert à rien. Mon Dieu, je fais des blagues sur ce que j'ai lu dans le journal le matin. Je suis en dessous de tout le monde dans la liste des gens importants et des métiers importants, mais forcément dans des situations comme celle qu'on connaît actuellement où je crois que c'est 3 ou 4 milliards de personnes sur la planète qui est confinée, tu redécouvres le pouvoir médiatique, je trouve, tu redécouvres l'importance médiatique et tu redécouvres l'importance de trouver un endroit qui soit géographique, qui soit ou qui soit virtuel, où tu te sens bien. Et moi, quand je viens devant mon micro et je ferme mes yeux pour commencer mon podcast, j'ai l'impression de me retrouver dans une espèce de bibliothèque où tout le monde a envie de montrer ce qu'il connaît et où moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir le partager et de créer un flow. Et j'ai vu dans des posts Facebook que j'ai fait récemment, des premiers trucs où des gens disaient « Ok, tout le monde va probablement te raconter une histoire dans cet angle-là pour avoir un autre point de vue. Voici quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Et pas un point de vue de merde d'un polémiste à deux balles. Non, quelqu'un qui est reconnu dans son domaine depuis 40 ans, qui écrit une série de livres et qui amène un point de vue. Et pas genre « Je trouve qu'un tel dit de la merde. » Non, juste « Voici une façon d'ouvrir un peu tes horizons. » Donc, je vous remercie pour ça. Mais donc, le podcast que je pensais faire aujourd'hui, ben, je le ferai pas. Parce que ça serait absolument pas à la hauteur de ce que ça pourrait être. Je voulais vous parler d'une autre chose à la place. Je voulais vous parler... ma voisine, en gros, qui est en dernière année du secondaire. Et je l'ai croisé l'autre jour pendant qu'on faisait nos promenades de confinés dans la rue où on habite. Et ça m'a fait penser à un article que j'avais lu aussi. J'ai une pensée pour les gens qui sont en dernière année du secondaire où, dépendamment donc du pays où vous êtes, au Québec, c'est 11 ans. En Belgique, je crois que c'est 12. En France, j'en ai pas la moindre idée. T'as 11 ou 12 ans autour de ça, d'un parcours scolaire avec plus ou moins les mêmes personnes, est une espèce d'apothéose qui est attendue. La fin du secondaire, c'est le moment où tu finis tes études obligatoires, entre guillemets, et où tu vas pouvoir te diriger et devenir qui tu veux être. Ce qui est absolument horrible dans l'absolu. Moi, j'ai un horrible souvenir de cette période-là, le moment où on dit, alors que t'as 16, 17, 18, 19 ans, fait « Ok, tu dois décider maintenant dans quel couloir tu vas te diriger pour la fin de ta vie. » Je sais aujourd'hui que c'est absolument pas le cas, que tu peux choisir n'importe quelle étude, que tu peux changer, que tu peux revenir sur ta décision, qu'un diplôme peut te mettre à 50 trucs. Mais quand tu as 16 ans, 17, 18 ans et qu'on te dit ça, c'est hyper tétanisant. Je sais pas ce que je veux manger pour souper demain. Je sais pas ce que je veux faire pour ma vie pendant 40 ans. Tu sais, dépendamment de l'âge à laquelle tu commences à avoir des souvenirs, moi, mes premiers souvenirs doivent être autour de 4-5 ans. Quand j'arrive à 17, j'ai 11-12 ans d'expérience dans la vie, puis tu me demandes de faire des prédictions pour trois fois ça. Je suis absolument pas capable de faire ça. Et je me souviens, mes parents avaient été super mignons avec moi parce que j'hésitais entre trois choses. Une école de commerce. Je me suis toujours intéressé au business. Quand j'étais jeune, je voulais créer une entreprise dans mon petit village où je suis né. En gros, où je suis né, c'est un endroit qui est... c'est une région minière. C'est un endroit que j'adore. Vraiment, j'ai un affect et très fort pour cet endroit. Le village, je veux dire, il est pas beau comme un beau village du sud de l'Italie, mais la réalité autour topographique est incroyable. T'as une série de lacs. C'est une ancienne, très, 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 très vieille chaîne de montagnes, donc très érodée. Mais c'est donc juste assez joliment vallonné, excessivement boisé. Tout ce que vous imaginez quand vous imaginez votre cabane au Canada, c'est ça. Tu vois. Moi, où j'habite, il y a une montagne où aller faire du ski à moins de 2 km. Il y a un parc national avec une réserve et des animaux. C'est absolument magnifique. Mais ça fait en sorte que c'est aussi une région où la densité démographique varie beaucoup en fonction des saisons. En gros, l'été, ça doublait à l'époque de population parce qu'il y avait beaucoup de gens qui débarquaient et qui avaient des chalets. Et quand j'avais à peu près 10-11 ans, en faisant mes balades à vélo, d'abord j'avais le droit d'aller jusqu'au bout de la rue, puis après ça j'avais le droit d'aller deux rues, puis trois rues. Et quand j'ai eu le droit d'aller jusqu'à une quatrième rue plus ou moins, j'ai vu qu'il y avait un terrain abandonné, ça c'est assez courant, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose en dessous, il y avait des petites plaques de béton. Je me souviens, c'était juste après la quincaillerie. Tu avais encore de la pelouse qui poussait partout, sauf quelques petites plaques de béton. Donc, tu sais, des aventures quand t'as 11-12 ans dans un petit village, t'en as pas tant que ça. Et nous, au Québec, c'est pas comme vous en Europe où vous pouvez toujours prendre le train puis vous retrouver ailleurs. Moi, mon monde s'arrête là où les jambes peuvent me porter. Et donc là, je découvre un nouveau territoire, mets mon vélo de côté, va voir, et je me rends compte que c'est un ancien terrain de mini-golf qui a été abandonné. Et donc, je suis complètement fasciné. Je fais « wow ». En fait, tout est déjà là. L'été, il y a les chalets. Et je me mets vraiment déjà à penser en fonction de... Je pourrais peut-être relancer ça. Et mon père travaillait dans une banque pour les Européens. Mais c'est une caisse, en gros, c'est une coopérative. Ça s'appelle les Caisses des Jardins. Il travaillait pour eux. Mais c'est la banque numéro... C'est l'institution financière numéro un au Québec. Et donc, dans un petit village aussi, vu que c'est une coopérative, ben, ça sponsorise tout. Ça commandite absolument tout ce qui existe. Donc, c'est au courant d'à peu près tout ce qui se passe, donc je viens le revoir. Je fais « Papa, tu sais pas ce qu'il y a dans la ville? » Évidemment, qui sait ce qu'il y a dans la ville? J'ai trouvé un terrain de mini-golf. Et tu vois, là, il m'explique. Il devait connaître. Il dit « Ah, c'est un tel qui, en telle année, a fait tel truc. Ça s'est arrêté, blablabla. » J'ai « Pourquoi ça s'est arrêté? » Il dit « Ben, en gros, une fois que les gens sont allés jouer une fois ou deux, ben, ils retournent pas 20 fois non plus. Puis avec la densité de population, ben, ça fait en sorte que c'était pas rentable. » Je fais « OK, mais est-ce que tu crois que je pourrais le racheter? » Et mon père était super mignon parce qu'il dit « Pourquoi? » Il dit « Ben, j'aimerais ça le relancer. » Il dit « Ben, comment ça marche quand on veut lancer une entreprise? » Ben, il dit « Il faut faire un plan d'affaires. » Je dis « OK. » Et je me souviens, j'étais dans mon coin et j'ai fait un plan d'affaires. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, un plan d'affaires. Donc, j'ai essayé d'imaginer toutes les dépenses. J'ai essayé d'imaginer tous les revenus. Et j'avais déjà un plan de communication. Et ma stratégie était basée sur le fait que les médias allaient parler de moi parce que j'étais un enfant de 11 ans qui avait déjà son entreprise. Et j'aurais aimé retomber sur le plan d'affaires qui ne devait faire absolument aucun sens. Mais à ce jour, je suis encore assez fier parce que je me dis, en fait, j'avais raison. C'est sûr que les médias auraient parlé de moi parce que j'étais un gamin de 11 ans qui avait son entreprise. Bon, arrivé là, je ne sais pas exactement comment j'aurais pu le faire, mais enfin soit... Et donc, c'est ça. J'avais toujours eu ce côté-là d'entrepreneur. Donc, j'hésitais entre une autre école de commerce. Avocat, tout simplement parce que j'avais lu beaucoup de livres là-dessus. Genre des romans de... J'allais dire Tom Clancy, mais c'est absolument pas ça. Comment il s'appelle? Celui qui a fait la firme. John Grisham. Et j'aimais bien l'idée de débattre, en général. Et d'avoir raison en particulier. Je dirais que c'est deux très grandes passions avec le fait de parler. Et d'un autre côté, communication. Et finalement, j'ai choisi communication. Et mes parents ont été super mignons. Parce qu'il aurait pu être, genre, dire « shit, pour ton avenir, ça aurait été plus safe les deux choix », mais ils ont essayé de trouver quelqu'un qui travaillait en communication pour un peu les rassurer. Et je sais aujourd'hui que peu importe le domaine que tu choisis, tu vas toujours avoir du boulot si tu es celui qui travaille le plus fort. Et la meilleure façon de travailler le plus fort, c'est d'être le plus passionné. Si tu adores ce que tu fais, tu comptes pas les heures. Et donc voilà. Quand on dit « choisis ce que t'aimes, ça va aller », c'est pas une formule magique, c'est juste que si vraiment t'aimes ça, tu vas te démener et tu vas finir par être bon. Donc, fin du secondaire, c'est une période un peu particulière. Et il y a au Québec ce qu'on appelle le bal de fin d'année, donc le prom night, comme vous voyez dans les films américains. Je suis pas sûr qu'il y ait ça vraiment en Europe. Et pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont l'avoir. Et surtout, ces gens-là ont arrêté d'aller à l'école, comme tout le monde au Québec, au début mars. Et peut-être qu'ils ne retourneront plus. Donc, c'est un article dans le journal qui s'appelle La Presse que j'avais vraiment apprécié. Le point de vue original, je trouvais de... Imagine la brutalité de ne pas avoir le côté fermeture. Donc, en psychologie, le closure, de dire comme 11 ans de ta vie, une espèce de montée et il n'y a pas le climax. Je leur souhaite très, 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 très fort de retourner à l'école, ne serait-ce qu'une semaine en juin, juste pour ça. Et moi, j'ai mon plan, d'ailleurs. Personne ne me l'a demandé. Et c'est d'ailleurs, si je pouvais parier dans la vie, ce serait sur ce genre de choses-là. Je pense que si le déconfinement est trop progressif, trop lent, et que les étudiants ne peuvent pas retourner à l'école pour le mois de juin, ils ne peuvent pas juste leur donner leur diplôme comme ça, parce que tu vas te manquer 3-4 mois d'école et tu vas être handicapé pendant un certain moment par rapport aux autres années. Moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'école cet été. Parce que l'économie est déjà de toute façon dans les toilettes. Et si tu mets de l'école cet été, ça veut dire que les profs doivent travailler. Ça veut dire que tu as une série de vacances qui ne seront pas prises. Donc, de commerces qui vont prendre cher. Tous les étudiants qui ont des jobs étudiants ne pourront pas les faire. Ceux qui mettent des sous de côté pour pouvoir justement se payer l'université ne pourront pas travailler. Ça va être capharnaüm. Ma théorie... c'est que d'après moi, ils vont utiliser septembre pour finir l'année. Ils vont laisser l'été de congé, septembre pour finir l'année, puis octobre, la nouvelle année scolaire va recommencer et ça va être condensé pour que ça soit rattrapé. Voilà. Nostradamus a parlé. Mark my words. J'adore faire ce genre de truc-là. J'ai des prédictions pour tout. Et comme j'avais prévu parler des femmes qui font un bébé toute seule et que c'est pas le cas, le podcast va être plus court aujourd'hui. Mais il y a une chose que j'ai envie de faire qui ne fait aucun sens par rapport à ce que j'ai fait depuis le début, mais ça me botte vraiment, vraiment bien. C'est difficile à admettre, mais à un moment donné dans la vie, il faut que tu admettes que tu as des forces. Et je pense que il faut une certaine maturité émotionnelle pour dire « ouais, je pense que je suis bon là-dedans ». Et une des choses pour lesquelles je suis bon, comme tout le monde, j'aime ça l'exercer. Parce qu'il n'y a pas un moment où tu te sens mieux que quand tu as utilisé ton talent pour aider les autres. Et j'ai la chance d'avoir un parcours un tout petit peu différent. Et j'ai fait des choses différentes. Je me suis planté assez souvent. J'ai réussi suffisamment souvent pour avoir une belle vie. Et j'aime bien encourager et inspirer les gens qui hésitent à se lancer dans un projet. Et j'ai envie de faire ça pour vous aussi. Parce que, je veux dire, je vous demande souvent des témoignages, des choses comme ça. Donc, je demande, mais ça me ferait plaisir de redonner. Et ça, je crois que je peux aider. Si vous avez un projet, quelque chose, « Ah, j'aimerais ça écrire un livre, je ne sais pas comment, podcast, évidemment, mais même n'importe quoi d'autre, en disant « J'aimerais ça partir en voyage, mais je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas. » Si vous avez un problème, j'aimerais ça, si vous avez envie, envoyez-moi un message, je lis le problème, je donne mes avis, puis on sert d'un peu tout le monde. Si d'autres personnes entendent ça, puis ils ont des pistes, ils peuvent vous aider. Donc, quand tu essaies de sortir des sentiers battus, c'est difficile parfois de trouver la manière d'avancer. Et profitons du fait qu'on est un petit groupe le fun ensemble, un petit groupe chouette. Donc, si vous avez quelque chose, vous êtes un peu coincé dans un truc, vous ne savez pas vers qui vous tourner, envoyez-moi un message. J'aimerais ça finir les podcasts avec ça, avec quelques petites histoires, puis on essaie d'aider les gens. Ou on leur dit qu'ils ont des idées de merde et qu'ils peuvent aller se faire cuire le cul. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Ça peut être un des deux. Non, mais il me semble que ça serait chouette. En fait, je vous le dis, voilà. Je rigole parce que je me trouve ridicule, parce que j'essaie de ne pas dire pourquoi j'ai envie de faire ça, et c'est vraiment con, mais dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, donc la presse... disons la presse populaire ou sensationnelle, dépendamment comment vous voulez voir ça, au Québec. Pendant des années, je lisais une chronique. Une fille qui était une ancienne actrice, d'ailleurs. Peut-être qu'elle est encore, en vrai. Louise Deschâtelet. Elle avait un truc qui s'appelait « Le courrier de Louise ». C'est un genre de courrier du cœur, mais pas que du cœur. Chacun appelait pour juste dire, je sais pas, mon fils me parle plus pour telle raison, que dois-je faire? Genre en 4 lignes, et elle, bam! Elle avait une réponse en 8-9 lignes. Et qu'est-ce que j'ai kiffé ce truc-là? Je sais pas pourquoi, je me doute bien que 80% des témoignages étaient faux, mais ça me faisait tellement fort triper ce truc-là. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'être Louise. Donc, voilà, c'est mon occasion. Maintenant, fuck it, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Proposez-moi, s'il vous plaît, des situations problématiques et je vais vous asperger de ma lumière en disant à chaque fois, mais faites gaffe avant de suivre mes conseils parce que 100% des gens qui ont réussi dans la vie n'ont absolument pas suivi ce que j'avais à dire. Mais honnêtement, je ne suis pas très sociable. J'aime pas ça sortir, ça tombe bien en ce moment. J'aime pas trop parler avec les gens, mais comme tout le monde, voilà, j'aime ça me sentir faire partie d'un groupe et c'est ma manière d'être sociable quand on s'écrit comme ça. Donc voilà, si je peux vous aider, ça me fait plaisir. Sinon, au pire, j'essaierai de vous faire rigoler. Puis sinon, ben voilà, vous pourrez me blâmer en disant si j'ai pas réussi, c'est de la faute à Dan Gagnon. C'est pas grand-chose, mais vous trouvez une victime sur laquelle taper, une tête, tu vois, tête de Turc. Faudrait vérifier, c'est peut-être raciste en fait, tête de Turc. Ouh, et je vais faire un podcast spécial sur justement l'origine des expressions. Ça me fascine. Mon épouse, ça la fascine aussi. Elle m'a proposé de m'en donner quelques-unes. Et on va faire ça prochainement. Je crois que ça va être super. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer de me suivre sur la plupart des plateformes de podcast, sur Spotify et sur le Patreon aussi. Forcément, si vous aimez ce que je fais, ben, c'est ce qui m'encourage le plus. Patreon.com/Dan Gagnon. T'sais, honnêtement, pour l'instant, tout est gratuit. Donc, si vous n'avez pas envie, ne payez pas. Mais si vous aimez bien, puis vous avez de l'argent, puis vous ne savez pas quoi faire avec, moi, j'aime ça, l'argent aussi. Voilà, j'aime parler, j'aime l'argent. Payez-moi pour parler. C'est une des suggestions de slogan. Ce que j'ai étudié en communication. C'est ma force. OK, bye-bye.